des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, un thème puissant, une ville, et quelle ville? Une ville à laquelle on doit l'un des plus beaux cris de défi à la vie, de défi à la ville, d'un des plus grands héros du roman français. À nous deux maintenant, disait-il, ce Rastignac. À nous deux qui? À nous deux Paris, pardi. Oui, aujourd'hui, nous parlons de Paris avec trois écrivains, Michel Brodeau, Aurélien Bélanger et Dimitri Bortnikov, qui l'ont mise, Paris, et j'en parle au féminin, peut-être ai-je tort d'ailleurs, il faudra le leur demander, qui l'ont mise, Paris, au centre de leur nouveau livre. Et ce n'est pas sans risque, Paris scintillant tellement dans le ciel littéraire comme un objet de fantasme, Paris chargé de mythes jusqu'à la gueule. Paris, c'est le défi où le jeune provincial doit faire ses preuves, où se brûle les ailes. Voyez ce qui arrive à Lucien de Rubempré. Paris, c'est la Dèche, c'est Orwell, c'est Miller, mais c'est aussi le Paris de la flambe, le Paris des Apaches, le Paris de la Parisienne. Créature compliquée, voyez Baudelaire, Nerval, ou Rétif de la Bretonne, Apollinaire encore. Oui, ce n'est pas sans risque, mais ils s'y risquent, nos écrivains. Bonjour Michel Brodeau.
Bonjour.
Lauréat du prix Médicis avec Naissance d'une passion, rédacteur en chef de la NRF entre 1999 et 2010, c'est bien ça?
Oui.
Dans les dates. Vous nous donnez dans ce nouveau livre un Paris qui d'abord se découvre au féminin, car Paris, c'est dans ce livre une place, la place des Vosges, qui donne son titre, hein, Place des Vosges, et qui nous plonge dans le Paris de la fin des années 60, époque où vous publiez votre premier texte,
oui.
Sous les auspices de Jean Cayrol.
Oui, ça s'appelait La Bazone, c'était une petite nouvelle, ouais. Et Jean Cayrol était aux éditions du Seuil, une espèce de tête chercheuse, un découvreur.
Oui, c'était le découvreur.
Oui, tout à fait.
Solers.
Solers,
Jean-Marc Roberts,
Orséda, plus tard, Antoine Gallien, Marcelin Plainé, ouais, plein de gens, ouais. Claude Durand, entre autres.
Ouais. Et Michel Brodeau.
Ben voilà.
Donc, voilà. Alors c'est une place qui est désormais très touristique, hein, la place des Vosges, mais qui est repeinte chez vous aux couleurs et à l'éclat d'une sorte de voie lactée où brillent quelques astres dans la nuit d'une jeunesse lointaine. Alors, il y a Dominique, il y a Bertrand, Marie-Jo, ceux-là ne sont pas des gens connus, mais il y a aussi Jean Edernalier et beaucoup de jeunes filles, la Tunisienne par exemple, qui viendra dormir avec son futur mari veillant au grain dans le lit du narrateur, un lit qui se trouve dans une chambre peinte couleur or, absolument
oui,
magnifique,
oui,
une sorte de bordel chinois.
Bordel chinois.
C'est une évocation, c'est une résurrection d'un haut lieu, cette place des Vosges. C'est un haut lieu parisien ou c'est un haut lieu universel pour vous?
Très parisien, elle a été construite sur la commande d'Henri IV, mais je la vois pas ailleurs. Elle a son pendant à Charleville.
Oui, mais dans ce livre, c'est aussi le lieu de la jeunesse, c'est le lieu aussi des dernières illusions.
C'est un endroit qui est mythologique, parce que je l'avais vu quand j'étais petit, et je la trouvais magnifique, harmonieuse, un peu comme ça, plus ancienne que le restant de la ville, remodelée par Haussmann. Et je sais pas, j'ai trouvé un charme très fort, très puissant.
Les souvenirs des duels.
Les duels,
entre mignons.
Les duels, les batailles. Mais en même temps, c'était, à cette époque-là, faut voir que c'était pas la place, chic, ouais, où on ne peut plus acheter quelque chose à manger, à part au restaurant, il n'y a pas de boutique. Il n'y a plus rien.
C'était un lieu où ça se mixait quand même.
À l'époque, il y avait des pauvres.
Ouais, c'est ça. Il y avait des pauvres, place des Vosges.
Dont j'étais.
Bonjour Aurélien Bélanger.
Bonjour.
Alors vous êtes édité par Michel Brodeau.
Eh oui.
Chez Gallimard, voilà. Et c'est la première fois que vous faites une émission ensemble.
Il y a un danger de collusion.
Non, pas de collusion, mais peut-être un inconfort de la part de l'édité par rapport à l'éditeur.
C'est un peu bizarre.
Ouais. Donc ça va, vous vous sentez pas trop sous contrôle?
Je peux pas dire n'importe quoi sur le livre.
Alors, vous avez publié, Aurélien Bélanger, un essai sur Houellebecq en 2010. Houellebecq, écrivain romantique, qui a fait date. Un premier roman en 2012, très remarqué chez Gallimard. Théorie de l'information, suivi de l'aménagement du territoire, toujours chez Gallimard, qui a obtenu, lui, le prix de Flore. Alors là, c'est le Grand Paris, c'est l'épopée, donc le Grand Paris est le titre de ce roman, l'épopée d'un enfant de l'Ouest parisien, Alexandre Belgrand, qui a grandi à l'ombre, non de jeune fille en fleurs, mais des tours de la Défense, et qui est héritier d'une sorte de roman national. L'expression est très en vogue aujourd'hui, bizarrement. Et ce roman national, pour lui, il se lit dans l'architecture parisienne, du Louvre à la Grande Arche de la Défense. Il va être votre personnage principal, initié à l'histoire secrète de la capitale par un professeur, avant de mettre sa formation d'urbaniste entre parenthèses pour entrer au service de l'un des princes de cette capitale, que vous appelez le prince, en passe de remporter les élections présidentielles et qu'il rejoindra après sa victoire au Fouquet's. Alors, on a parlé de la place des Vosges avec Michel Brodeau, autre haut lieu emblématique de la capitale. Alors, on le reconnaît, hein, ce prince, évidemment. C'est le récit de l'ascension puis de la disgrâce d'Alexandre, celui qui voulait doter Paris d'un moyen de transport révolutionnaire, le Grand Paris Express. Et on va le suivre, au fond, aussi dans le désert algérien, donc loin de Paris, et jusqu'à son ultime conversion, qui lui avait été annoncée, d'ailleurs, en Algérie. Nous autres, urbanistes, lit-on dans ce roman, nous parlons aux dieux plutôt qu'aux hommes. Le Grand Paris est-il un titre ironique, Aurélien Bélanger ?
Non, bêtement, je pense que le livre est très ironique, le titre ne l'est pas. Ouais.
Et enfin, bonjour Dimitri Bortnikov.
Bonjour Christophe.
Voilà, vous êtes russe, complètement russe.
Russe.
Voilà. Vous avez publié 4 livres, oui. Je crois, dont un premier roman, alors qui a reçu le Booker Prize russe. Qu'est-ce que c'est que le Booker Prize russe ?
Booker Prize russe, c'est comme les échasses pour un nain. C'est l'ombre d'un nain. Si Booker Prize anglais, c'est un nain, ouais. Booker Prize russe, c'est son ombre.
D'accord.
En fait, c'est quasi inexistant.
Très bien. Alors, vous avez traduit aussi en français des lettres d'Ivan le Terrible.
Ah, ça oui. Oui, c'est ma fierté. Ouais.
Voilà, aux éditions Alias, le titre c'était « Je suis la paix en guerre ».
Du slavon.
Traduit du slavon.
Du slavon, ouais. Directement.
Alors, votre nouveau livre, vous ne l'avez pas écrit en slavon.
Ni en braille.
Ni en braille. Vous l'avez écrit directement en français et il s'intitule « Face au Styx ». Alors, il fait presque 800 pages. Il nous décrit le parcours insensé d'un jeune russe dans le Paris d'aujourd'hui. Insensé, j'aurais même dû dire halluciné, car c'est un torrent de mots que vous nous offrez, de paysages urbains, de rencontres, dans une prose hérissée de littérature, je dis hérissée parce qu'il est question de chats et de coups de griffe aussi, de points d'exclamation, de points qui ne sont pas suivis d'une majuscule, et d'une prose qui est rythmée par les va-et-vient entre les époques et les lieux, puisque votre personnage qui s'exprime à la première personne oscille entre Paris et la Russie.
Et la Russie, ouais.
Parce que les souvenirs lui reviennent, lui traversent le cerveau et la colonne vertébrale, ça produit des étincelles, une forme d'électricité littéraire. Les souvenirs de vos lectures sont là aussi. Il y a Shakespeare, il y a les Schtroumpfs, Babylone, Trotsky, la place Saint-Sulpice, les Cosaques Zaporogues,
Zaporogues,
qui étaient présents,
oui,
chez Baudelaire d'ailleurs. Hein. Mmh. Réponse des Cosaques Zaporogues au sultan de Constantinople.
Ouais.
Très beau texte. Et puis il y a ce Styx qui revient de façon lancinante, c'est le fleuve des enfers grecs. Alors Dante en faisait du Styx le cinquième cercle de l'enfer, et c'est là où les coléreux étaient enfermés. Leur châtiment, c'était de demeurer immergé dans la vase du cours d'eau. Est-ce que c'est pas un peu le cas de votre personnage, Dimitri Bortnikov, qui est prisonnier de la vase d'un cours d'eau, mais qui conjure cette immobilité par justement ce flux de conscience qui fait même parfois penser à Joyce aussi, et dont le mouvement de ce flux de conscience sculpte une forme de Paris totalement tentaculaire, littéraire, baroque, fou.
Mais pour un Russe, être immergé jusqu'aux burnes dans la vase, c'est pas étonnant. Plutôt dans la vodka. Mais moi, je préfère...
Ou le caviar. Parce que je crois que vous venez de la Volga.
Oui.
Voilà.
Oui,
de la Volga. C'est là d'où vient le caviar.
C'est là le caviar, c'est là l'usturgeon qui crèche. Mais je sais pas, maintenant, il crèche peut-être plus là-bas.
Ah oui, pourquoi il déménage?
Il déménage souvent, il descend plus vers la mer Caspienne.
D'accord.
Là-bas.
Ouais. Donc immergé, vous disiez, dans la vase.
Ouais. Oui, dans la vase. Mais pour moi, pour un Russe, la vase, c'est gelé. On est habitué à patiner sur la vase gelée. Mais en fait, quand vous êtes dans la vase, ou je dirais même dans la merde, jusqu'aux lèvres inférieures, soit on sautait, soit on prie. Et ça, c'est un texte comme une sorte de prière.
De prière. Merci à tous les trois de participer à cette émission sur Paris. Je le disais à l'orée, justement, de cette émission. Paris tient assez bien le pavé, en littérature en tout cas. Claude Lantier qui se penche par-dessus l'épaule de l'apprenti peintre reclus dans sa mansarde. Quasimodo qui grimace sur les tours de Notre-Dame. Les personnages de Modiano qui déambulent avec leurs secrets dans les rues labyrinthiques de Paris et ses boutiques obscures. Les images, elles sont là, elles sont bien présente en littérature. De Paris, on a l'impression qu'on est un peu tous, dès qu'on écrit, le piéton ou le paysan. Et pourtant, ça ne vous a pas découragé d'essayer d'affronter le mythe. Encore une fois, vous parliez, Michel Brodeau, de mythologie. Comment est-ce qu'on ose aujourd'hui s'aventurer littérairement dans Paris quand on pense que Victor Hugo a exploré jusqu'à ses égouts et que Zola explorait aussi ce qu'il y avait dans son ventre.
Il ne faut même pas prendre le stylo ou l'ordinateur, non. Bah, on parle de Paris parce que c'est l'endroit où on est né, où on a vécu, ou que l'on a choisi, ou que l'on aime particulièrement. Moi, j'adore cette ville profondément. Et on la découvre à chaque époque, à chaque âge de la vie, c'est très bien. Donc il n'y a aucun surmoi.
Aucune précaution à prendre, Aurélien Bélanger, justement, vous qui osez le grand Paris. Parce que Paris a été, c'est vrai, dans des grands titres de la littérature. Le ventre de Paris.
Non, c'est presque, à l'inverse, c'est plutôt tentant, parce qu'on a envie de faire un peu d'iconoclasme, mais de dire, là on est à la maison de la radio, et de dire que le front de Seine, on trouve ça super beau, ça fait toujours plaisir, de dire qu'on aime bien la tour Montparnasse. C'est assez facile de faire de la provocation à très peu de frais à Paris, vu que il y a quand même beaucoup de mythes réactionnaires attachés à un Paris qui doit pas trop dépasser les arrondissements centraux. Ouais. Moi j'aime bien aller rejoindre les aéroports à pied, aller dans des endroits un peu insolite.
Et votre Paris, vous le faites aller jusqu'au Havre, parce que dans le projet du Grand Paris, il y avait aussi, on allait jusqu'au Havre. Hein.
C'était l'un des projets. Non, parce que la Seine, elle a quand même beaucoup trop de méandres. C'est pas très sérieux. Il faudrait la canaliser comme on a canalisé le Rhône.
La Seine ou le Styx.
Alors le Styx. Oh là là, le Styx.
On ne le canalise pas, Dimitri.
Ah non. Il est toujours bouché, lui.
Vu de la tête d'un Russe, justement, Paris avec toute cette littérature que vous connaissez par cœur, hein, parce que vous avez été biberonné à la littérature française aussi. C'est quoi Paris?
Je ne sais pas par quoi les Russes voient, par la tête ou par autre chose, mais en tout cas, pour moi, Paris, quand je suis arrivé à Paris, pour moi, c'était un choc. Et j'étais mais éberlué comme un raton laveur face à un lave-linge. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quoi éprouver. C'est une ville fantasmée, c'est la terre promise, c'est une ruche pour les ours. Dans chaque tête, dans chaque Russe, il y a un endroit où il y a la vodka, caviar, la mère patrie et Paris. Il y a un petit coin qui reste toujours.
Et pourquoi ça, ce Paris reste comme ça aussi?
Parce que Pouchkine écrivait parfaitement en français. Ses lettres à Guéquerin, à celui qui va le tuer, écrites en français. Quand il mendiait auprès du tsar, il écrivait en français parfait. Ça change tout. Tourguenieff, il écrivait en français parfaitement. Et ses fautes en russe, c'est son cocher qui corrigeait, parce qu'il oubliait parfois les mots en russe. Dostoïevski, c'est le seul qui n'écrivait pas en français. Il écrivait toujours en Tolstoï.
Il y a une forte réciproque, hein, aujourd'hui, on le voit, un amour aussi de certains Français pour la Russie, au plus haut niveau.
Oui, mais heureusement, ils n'écrivent pas en russe.
Voilà. Merci à tous les trois. On va commencer avec vous et cette place des Vosges, Michel Brodeau, que vous faites paraître aux éditions du Seuil. On écoute avant votre choix musical, vous avez choisi Salvatore Adamo.
Mais oui, bah, il chantait dans ces années-là. Oui. Pour la première fois, enfin, non, il repasse beaucoup, mais et c'est une chanson que j'aimais bien,
Es mi vida,
qui m'a frappé quand je l'ai entendue en espagnol dans un film péruvien. Ouais. C'est assez drôle.
Mais là, il y a beaucoup de questions d'Amérique latine d'ailleurs dans
oui,
la place des Vosges.
Hein. C'est voilà, c'est simple. C'est...
Voilà, Es mi vida de Salvatore Adamo.
Gran amor, y es es verdad, me diste a mí un mundo de calor que yo te devolví. Yo te confié sin pudor todo mi corazón, de canción en canción. Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí, que te fui a entregar. Es mi vida, es mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén.
Salvatore Adamo, ça se dissipe dans ce studio, c'est l'effet Adamo. Es mi vida, on prononce comme ça. Hein. C'est ma vie, c'est le choix de Michel Brodeau qui publie Place des Vosges aux éditions du Seuil. Es mi vida, c'est aussi ce que vous auriez pu mettre en exergue de ce livre.
Oui, bien sûr, c'est autobiographique. J'aime bien le côté mélancolique et heureux en même temps. C'est pas une chanson triste.
La mélancolie est un sentiment qui rend heureux l'écrivain Michel Brodeau ?
Non, c'est un sentiment, disons, assez spontané, banal, mais pas que. Je crois que c'est impossible, enfin pour moi, d'écrire sans avoir une forte attirance pour le passé.
Alors Place des Vosges, donc c'est un récit autobiographique, hein, donc publié au Seuil. On est à la fin des années 60, on est après 68, et un jeune écrivain qui vient de publier son premier texte sous les auspices de Jean Cayrol, donc le grand découvreur de la littérature française, s'interroge sur ce qu'il doit ou sur ce qu'il peut devenir ou simplement être. Il s'établit en colocation avec certains de ses amis, Place des Vosges. Il occupe une chambre dont il repeint les murs avec de la peinture d'or. Et il se sent tel l'Inca Atahualpa, écrivez-vous, fait prisonnier par Pissarro. En fait, dans cette chambre, il y accueille un certain nombre de personnages, notamment des jeunes filles, comme la Tunisienne, qui me plaît beaucoup, et une scène très belle où elle doit partir, en fait, en Afrique.
Oui.
Et elle vient dormir.
Son mari arrive là-dessus.
Voilà.
Et s'installe entre nous, bêtement.
Pour contrôler. Pour veiller au grain, au moment où votre main cherche le pistil tant convoité, dites-vous, et vous trouvez la chevalière du mari.
Tant que c'est une chevalière.
Voilà. Tant que c'est une chevalière, exactement, ah oui. Dit Dimitri Bortnikov. Alors, il y a beaucoup de jeunes femmes, hein, je le disais, comment vous avez fait pour convoquer ces souvenirs, ces présences? Est-ce qu'il y a eu un petit moment chamanique de...
Non, elle ne me quitte jamais. Ouais.
Ouais. Mais alors pourquoi dans ce cas-là avoir attendu tant de temps pour l'écrire ?
Mais parce qu'il n'y a pas que l'écriture dans la vie.
C'est vrai, parce que votre personnage fait ça aussi.
Oui,
il se dit au fond,
on peut s'arrêter, ouais. On n'est pas... Je veux dire, personne ne vous oblige à sortir un livre tous les deux ans, même pas le public, donc faut vivre. Et puis quand il y a un moment où ça s'impose, où on sent que ça va passer, ça va disparaître, donc vite on le note.
Alors il y a d'autres personnages aussi, hein, on y reviendra, notamment Jean Édernalier,
oui.
Figure de l'écrivain déjà un peu maudit, aventurier, étrange.
Oui, maudit de naissance,
voilà.
Pratiquement.
On va y revenir, j'aimerais bien qu'on vous écoute, Michel Brodeau, lire un extrait, c'est au début du livre, justement, où vous mettez en place cette place des Vosges.
À cette première image ensoleillée, dispersée dans la lumière, se mêlait une autre, reçue à l'adolescence avec une pluie lourde et rapide, sous un ciel de plomb, celle d'une fin d'après-midi transie. Je m'étais réfugié sous les arcades, une aubaine, alors que la place n'était pas sur l'un de mes trajets habituels. Une erreur me l'offrait à point nommé, comme une seconde chance. Qu'y avait-il à voir ? Des milliers de flèches tombant à l'oblique, des lances de lumière, des éclairs, mais rien ni personne. Embrochés les ducs, pourfendus les vicomtes, crevés les chevaux. Un paysage de défaite comme à Zincourt. En quoi cela me concernait-il ? Des années plus tard, lors d'un tournoi en costume organisé pour les enfants, un canasson ébloui heurta violemment les grilles du jardin et tomba mort, assommé dans la poussière. Au travers de ces bonds dans l'histoire, l'énigme des lieux restait entière pour mon esprit superstitieux. Ces rencontres inattendues avec le carré de la place me signalaient un message sans me le délivrer, un secret qui tremblait dans le vide. Je ne pensais pas qu'il était lisible pour les autres. Peut-être étais-je le seul à y être sensible sans le comprendre.
Merci Michel Brodeau, donc extrait de Place des Vosges, hein, votre nouveau livre aux éditions du Seuil. Alors ce message, ce secret me signalait un message, cette place me signalait un message sans me le délivrer, un secret qui tremblait dans le vide. Vous l'avez compris, vous savez ce qu'il est maintenant, ce message, Place des Vosges.
En fait le message serait une sensation, celle sur l'entrelacs du temps et de l'espace. Il y a des lieux comme ça où le temps n'existe pas, parce qu'on peut très très bien être dans le passé comme dans le présent, et cette espèce d'instant sublime comme ça est une sensation très puissante qui donne des ailes, qui m'allège. C'est peut-être l'impression la plus forte que j'ai eue là-bas.
Alors ce qui est fou, c'est qu'il y a aussi, bien sûr, la place des Vosges, puisque ce sont ces 10 ans de place des Vosges, mais il y a d'autres coins de Paris sur lesquels vous zoomez, notamment la rue Jacob, oui, avec les éditions du Seuil, donc où Jean Cayrol vous reçoit. Alors Jean Cayrol, vous le voyez parfois éclairé d'une forte lumière jaune, écrivez-vous, comme s'il avait une ampoule très forte dans le cerveau, parce que vous avez pris en fait des drogues
de LSD,
à l'époque.
Oui.
Voilà. Quel récit, ça fait rire votre élève, Aurélien Bélanger.
Oh, pas mon élève.
Non, je dis ça parce que dans Place des Vosges, on voit ce rapport éditeur-écrivain, puisqu'on assiste aussi au moment où le jeune Jean-Marc Roberts, qui a 17 ans, vient voir Jean Cayrol. En fait, Jean Cayrol vous donne le manuscrit de Jean-Marc Roberts, oui, parce qu'il a 17 ans. Il veut le publier avant ses 18 pour épater ses copains.
Voilà, c'était le côté charmant de Jean-Marc. À la fois ingénu, culotté, mais en même temps, il apportait un livre très charmant, comme tous les premiers qu'il a publiés, que je préférais. Mais à mes yeux, c'est pas un rapport de pouvoir, ni d'intimidation, ni conflictuel. Dans ma vision, à chacun sa façon de voir. Je pense que c'est un rapport de confiance, d'intérêt, d'attention. Mmh. Voilà. Or, Cayrol, pour ça, était génial. Il avait une façon de vous écouter qui vous laissait comprendre que vous étiez en train de faire quelque chose de formidable. C'est très prenant.
C'est aussi un moyen, ce livre, de payer une forme de tribut, justement, à ces gens qui ont été bienveillants avec vous, ces filles,
oui,
comme
oui,
Jean Cayrol.
Il y a un moment où on se dit qu'on n'aura pas éternellement le loisir de dire ce qu'on a vécu et qui on doit remercier.
Alors, il y a quelqu'un qui apparaît, Place des Vosges, c'est Jean Edernalier.
Ah oui,
Jean Edernalier, que vous décrivez aussi dans son aventure chilienne, puisqu'il y a un grand mouvement, on est après 68, il y a un grand mouvement d'intellectuels pour évidemment aider les opposants à Pinochet. Et alors vous le décrivez ainsi, au Chili, il eut le projet de monter une agence de presse nommée Araucana pour relayer la voix des victimes du régime, mais on ne lui fit pas confiance parce qu'il détournait une part de l'argent en hôtels coûteux, d'où il téléphonait aux résistants qui se cachaient sous de faux noms en les appelant par leur nom véritable. Ayant séduit une secrétaire en charge des fonds de la résistance, il s'était emparé du magot et s'était envolé pour le Brésil. Les Chiliens à ses trousses, il s'était frayé dans la forêt amazonienne un chemin hasardeux, guidé par des ornithologues. Du moins, est-ce une des versions qu'il donna plus tard d'une équipée dont il revint avec des arcs indiens et des parures de plumes d'ara.
Oui, je les ai vus. C'était un cadeau pour sa fille. Mais il racontait tout et son contraire, bien sûr.
Il veut vous tuer.
Après, oui. J'ai su par un de mes amis qui était avocat, qui était en même temps un ami de lycée, de 1962, que il l'avait consulté pour savoir ce qu'il risquait s'il faisait mettre un contrat sur moi. Ouais. On habitait à côté l'un de l'autre, il était deux rues à côté. Et j'ai tout de suite prévenu le procureur de la République en lui disant, s'il m'arrive ce genre d'aventure, vous savez qui arrêter. Voilà. Donc ça l'a calmé. En plus, il se trompait complètement.
Qu'est-ce que la littérature retiendra de Jean Edernalier, selon vous?
Il y a
une biographie qui va sortir, là,
d'ailleurs. Oui, il y a une biographie qui va sortir bientôt, de Jean-Claude Lamy. Je l'ai lu sur épreuve. On ne sait pas trop, parce que il a interrompu très vite sa carrière d'écrivain proprement dit pour passer uniquement au pamphlet, puis du pamphlet à l'insulte.
On peut être un écrivain auteur de pamphlets.
Oui, mais enfin, pas que. Lui, il avait quand même le désir d'être un romancier. Mmh. Mais je crois que la force des démons qu'il avait en lui était d'être si grande que il est allé vers sa pente la plus naturelle, qui est la véhémence, l'insulte.
Qui a tué l'écrivain?
Enfin, qu'il l'a laissé sur le côté, en tout cas.
Il y a une question qui m'a préoccupé, page 118 de ce livre, Michel Brodeau. Vous écrivez « Pourquoi raconter cela maintenant ? Peut-être parce qu'un jour on se demandera ce que pouvait inventer un jeune homme qui espérait encore en la littérature, en ces années où les plus avisés de ses contemporains s'égayaient dans des jeux formels bien différents. Écrire des romans à la fin du XXe siècle semblait être devenu en France une tâche impossible sinon honteuse, une entreprise aussi surannée et naïve que la peinture d'une armée de soldats de plomb. Qui les collectionnait encore et pour combien de temps ? Vous vous posez cette question-là dans les années 70. Je vois, il y a Aurélien Bélanger et Dimitri Bortnikov, là, qui continuent à écrire au XXIe siècle. Vous aussi, d'ailleurs, mais vous, c'est un récit autobiographique. Mais pourquoi cette mise en doute de l'utilité du roman ?
À Paris, notamment, le plus grand discrédit s'attachait au roman traditionnel, disons de forme classique, même dans toute sa souplesse. C'est pas le cas du tout aux États-Unis, c'est pas le cas en Italie, c'est absolument pas le cas en Amérique latine, où les gens sont en plein dans l'amour, le développement du roman. Chez nous, le roman est arrivé à un moment de perfection, si j'ose dire, au 19e siècle, et jusqu'à Proust, et ensuite... On a l'impression que les auteurs se sont sentis interdits d'écrire, interdits d'être fictifs.
Vous sentez ça, Aurélien Bélanger, par exemple, interdit d'être fictif
Je l'ai senti jusqu'à mes 20 ans et jusqu'à ce que je lise les romans de Houellebecq, en fait, où d'un coup ça m'a réconcilié instantanément et pour toujours, j'espère, avec le roman. Qu'en fait, il y avait énormément de choses à dire, il y avait plein de grands récits. Et la mise en forme romanesque était la plus adaptée à notre époque, complexe.
Quand on voit les auteurs, puisque vous parliez, le roman américain, les grands, même, je sais pas, Tom Wolfe, par exemple, ne jure que par Balzac, la plupart des grands romanciers américains ne jurent que par les écrivains français du 19e.
Classique.
Oui,
mais
classique.
Là, l'époque dont je vous parle, c'est celle du nouveau roman.
Mais est-ce que c'est
formalisme.
Oui, mais est-ce que c'est seulement cette époque-là? Parce que j'ai vu Aurélien une interview de vous sur un site nonfiction.fr où vous disiez je n'ai jamais aussi peu lu de romans que depuis que j'ai une connexion Wi-Fi performante chez moi. Donc on a l'impression aussi que même vous, finalement Michel Brodeau dit ça dans les années 70 à cause des recherches formelles, mais au fond, même si on balaye ces recherches formelles, finalement on a l'impression que le roman, oui, les soldats de plomb quoi, qui va les collectionner?
Bah ouais, mais c'est comme quand la photographie arrive et que la peinture d'un coup change complètement de propos parce qu'elle a plus à faire de l'identification judiciaire. Le roman comme divertissement standard a été avantageusement remplacé par les séries télévisées par exemple. Mais le roman comme élément d'un niveau supérieur, ce que je crois assez fortement quand même à la hiérarchie des arts, comme ordonnancement supérieur, chose plus rare. Donc effectivement, je lis moins de romans.
Plus élevé, c'est-à-dire d'outils de compréhension du monde.
Là, par exemple, j'étais vexé l'autre jour, parce qu'on m'a parlé du personnage du Grand Paris comme d'un homme sans qualité, et j'étais vexé parce que je suis souvenu que j'avais pas lu Musil. Donc j'ai commencé L'homme sans qualité, c'est d'un niveau de difficulté extrême, mais le rendement est aussi à l'avenant. Enfin, le taux d'intérêt est monstrueux, c'est très risqué, mais le bénéfice est prodigieux.
D'intérêt pour le lecteur que vous êtes ou pour l'écrivain qui va trouver des leçons chez Musil?
Là, c'est vraiment plus pour le lecteur. C'est juste, mais comment ai-je fait pour ne pas lire Musil pendant aussi longtemps? On s'entend vraiment bien. Enfin, il y a quelque chose comme ça.
C'est bien. Alors, Aurélien Bélanger, on continue avec vous. Donc, vous publiez Le Grand Paris chez Gallimard et on écoute avant d'en parler votre choix musical. Alors, vous avez choisi les jeunes de PNL, les nouvelles stars du rap français. Onitsuka.
Ouais. Oui. En deux mots, parce que moi j'ai grandi dans le 91 et ils filment un peu leurs clips dans le 91 et ça me rappelle que cette banlieue, avant d'être ennuyeuse, en fait elle est en train d'accéder à quelque chose de nouveau, elle est en train de devenir douce. Et j'ai pensé à ça parce qu'il y a quelque chose qui avait été très marquant, c'était en 2007, justement contemporain de l'élection de Sarkozy, il y avait eu la sortie du clip Stress de Justice qui présentait des banlieusards qui envahissaient Paris et c'était très bien fait, mais c'était quand même politiquement un peu problématique, et PNL...
Mais c'était fort. Enfin,
mais c'était hyper fort. Mais là, PNL, on a l'impression que enfin la banlieue ne se construit plus dans une dialectique avec la capitale. La banlieue existe comme espace autonome, avec ses propres codes, sa propre douceur. Et pour moi, PNL est la bande-son du Grand Paris.
PNL, Onitsuka.
Je fais les ronds, je fais les ronds, je fais les ronds. Plus je me rapproche du sommet, plus j'entends le sol qui gronde. Je voulais juste cry. que l'œuf ne cherche pas d'arrêt. Hésite, la vie est bonne, bonne à niquer. Ils vendent leur cul, leur mère. On n'imagine pas cette vie sans porter la guerre. J'aimerais un gosse, mais à la cuve de ces putains le faire. Je pense à demain du soir. Matin, j'ai cru apercevoir. Ouais, je t'ai jamais aimé. On s'est jamais vraiment quitté. Gratte pas l'amitié. Maman, on s'est pas vraiment quitté. Rien n'a changé dans ma direction du vent. Y'a juste que je recompte un peu plus qu'avant. Tu frère n'a pas de grand. Prince de la ville. Je m'écarte du bâtiment. J'oublie le temps du kill.
Onitsuka. PNL Onitsuka. C'est votre choix. Aurélien Bélanger, Le Grand Paris, c'est votre nouveau roman, publié chez Gallimard. Vous nous avez expliqué ce choix, vous nous disiez que la banlieue ne se construit plus contre Paris, mais dans une forme de douceur, de caresse, finalement, ça y est, c'est le temps de la...
En tout cas, elle existe comme espace pendant longtemps, c'était l'espace déchiqueté, c'était il y avait la ville-centre et les fonctions secondaires qui étaient attribuées à la banlieue, les aéroports, les usines de retraitement des déchets, les stations d'épuration, etc. Et les populations pauvres et reléguées. Et la banlieue, maintenant, commence à exister, commence à avoir une culture autonome. Donc on va me hurler dessus en disant qu'elle a toujours eu une culture autonome.
Mais ah oui.
C'était une culture autonome très véhémente.
NTM,
très
au moins.
Mais NTM, c'était Paris sous les bombes. Il y avait l'idée...
Depuis Céline, aussi, depuis Céline, les passages en banlieue. Aurélien Bélanger, Le Grand Paris... C'est l'épopée d'Alexandre, urbaniste, qui a grandi à l'ombre des tours de la Défense et qui va se retrouver embringué dans l'ascension politique d'un candidat que vous appelez Le Prince, évidemment référence à Machiavel, un prince qui termine sa course, en tout cas l'apogée de cette campagne aux Fouquet's. Vous reprenez certains de ses discours aussi. Mais ce qui est intéressant dans votre livre, en dehors de cette dimension politique personnelle, c'est la dimension politique urbanistique, architecturale. C'est-à-dire que vous ne cessez, dans ce livre, de parler de l'agencement des espaces, du Paris souterrain aussi. Et on suit, en fait, Alexandre dans ses grands rêves, hein, dans son rêve d'urbaniste, et notamment ce qui devait être son Graal, le Grand Paris Express, un moyen de transport révolutionnaire dont il va se faire déposséder, finalement. C'est l'histoire d'une chute aussi.
C'est un Rastignac raté, mais un peu volontaire, en fait. Au moment où il peut vraiment réussir à Paris, il s'accompagne de l'époque, lui donne des conseils pour devenir un bon bourgeois, et il refuse cette vie bourgeoise. Et soudain, il se rend compte qu'il est resté un banlieusard. Et derrière ce terme, jusque-là péjoratif, il a une sorte de retournement intellectuel. Il se dit « Je suis le premier habitant du Grand Paris ». Et j'ai essayé de faire en sorte que ce soit un parcours spirituel et qu'il soit connecté à la ville en totalité. Donc évidemment, Paris est tellement écrasant qu'il devra en passer par Paris. Il devra affronter Paris dans ce que ça a de plus dur et de plus passionnant. C'est le velouté des palais de la République, c'est la petite rue du Faubourg Saint-Honoré, avec l'Élysée, tous ces palais en forme de coquillages, plein de dorures. Il faudra qu'il aille là, mais contrairement à Rastignac qui finit ministre et qui meurt en se fossilisant dans Paris, lui va essayer de reprendre du recul et de faire exister un objet plus grand.
J'aimerais qu'on vous écoute lire un extrait de ce Grand Paris. Alors c'est une promenade sous le Louvre, en fait, dans les entrailles du Louvre, qu'accomplit Alexandre Belgrand.
Il y avait des souvenirs de passages très beaux de Breton dans Nadja sur les fortifications de Paris, justement, il y a tout cet aspect. J'ai continué pourtant à avancer jusqu'à l'escalier qui menait aux collections égyptiennes, mais le sphinx qui en protégeait l'accès me barrait le passage. Je suis parvenu, in extremis, à atteindre la margelle d'un vieux puits dans lequel j'ai vomi. Un vomi rouge sang sur la lame de verre du dispositif d'éclairage dissimulé au fond. Les parois du puits ont alors pris la couleur angoissante d'un boyau. J'allais mieux, mais en me relevant, je me suis trompé de direction en tournant à gauche, vers l'intérieur du château, vers la base de son donjon circulaire au lieu de reprendre le chemin des fossés extérieurs. L'environnement demeurait stable, l'angle que faisaient les murs avec les douves était conservé. Le caillebotis post-moderne du sol était inchangé, mais tout était plus étroit. Nous étions à l'intérieur du château. Cette évidence architecturale m'a malheureusement échappé et j'ai cru un instant que l'espace se resserrait autour de moi. J'ai en tout cas vu, avant de m'évanouir, la base du donjon qui commençait à tourner comme une meule et qui s'apprêtait à me broyer. Je me suis réveillé entre les deux pompiers qui m'avaient secouru dans un passage souterrain rempli de passe-câbles, de tuyaux et de portes anti-feu qui débouchaient directement sur la rue de Rivoli. J'ai marché de là jusqu'à Châtelet, où j'ai rejoint mécaniquement la BNF. J'ai raconté le lendemain mon aventure à Machelin, qui a paru plutôt inquiet à l'idée que mes dérives, qu'il considérait comme quelque chose d'aussi sérieux que mon travail de recherche, tournent aussi mal. Il allait m'aider à lever la malédiction qui semblait me retenir prisonnier de l'enceinte de Philippe Auguste et d'un système de souterrains qui risquait de me renvoyer sans fin d'un musée à une bibliothèque.
Musée, bibliothèque, Aurélien Bélanger, vous venez de nous lire un extrait du Grand Paris. C'est souvent les deux mots qui reviennent quand on caractérise Paris. À la fois une ville fossilisée dans le temps et aussi une ville du savoir, mais les livres étant aussi vus comme des choses du passé.
Bah, y a une critique de quelque chose qui était très marquant dans mon enfance, qui est le Paris des grands travaux mitterrandiens. Il y a ce mythe que dans 5e République, le monarque républicain doit inscrire son règne dans la pierre, et Mitterrand l'a fait plus qu'aucun autre homme politique de la 5e République. Donc, mon personnage qui devient urbaniste au service du prince, il doit lui trouver quelque chose à fabriquer. Mais très vite, il se rend compte que tout ça, c'est un peu limité, que Mitterrand, c'était pas génial, qu'il a fait finalement que poser des pierres tombales, des monuments en marbre froid, et en plus un marbre qui tient pas très bien, parce que comme on voit à l'Opéra Bastille, le marbre arrête pas de tomber, ou à la Grande Arche. Et il se rend compte que finalement, il ne faut pas faire de l'architecture, il faut faire de l'urbanisme. C'est en ça que le président sera grand. C'est ce qu'avait compris De Gaulle en chargeant son préfet de l'ouvrier de la construction de villes nouvelles autour de Paris. Mitterrand, finalement, c'était d'une extrême postmodernité. C'était des petits monuments comme des pièces d'échecs qui déplaçaient. Et là, il faut concevoir plus grand, il faut concevoir un monument à l'échelle métropolitaine. Et ça sera un monument comme on sait en construire, c'est-à-dire des monuments invisibles. Ça sera un super métro automatique, savoir quelque chose qui va juste intensifier l'espace, mais qui a aucun moment, l'exception de quelques gares, à aucun moment ne sera visible.
Romanesquement, qu'est-ce que ça donne justement ce prisme urbanistique ou architectural ? C'est-à-dire voir des destinées humaines, non pas seulement à travers leur ascension politique, etc., mais se servir justement de ces ensembles architecturaux pour dire quelque chose d'autre dans un roman ?
Il y a vraiment pour moi un souvenir très simple d'enfance, c'est que ayant grandi à côté d'Évry, je sais que la quasi-totalité de mon enfance et de mon adolescence a été déterminée par des décisions urbanistiques. Donc je sais dans mon corps.
Que ça pèse sur
autant quand on est dans Paris, on a l'impression que Paris s'est quand même né un peu par hasard. Je me souviens, il y avait des livres comme ça qui posaient cette question, des vieux livres préfacés par Chirac dans les années 80. Paris, hasard ou nécessité. Bon, les villes nouvelles, on sait que c'est vraiment une nécessité. Donc ça m'intéresse de raconter comment est-ce qu'on est fabriqué par des décisions urbanistiques. Mmh. Et en même temps, le but de tout urbanisme, c'est de maximiser la liberté humaine. C'est pas de parquer les gens dans des espaces qui vont diminuer leur liberté. Donc il y a cette dialectique qui me semblait intéressante.
Alors on trouve la littérature aussi, pas seulement votre livre est de la littérature, mais la présence d'autres écrivains, évidemment, dans ce Grand Paris. Par exemple, quand vous dites ça, Aurélien Bélanger, l'Île-de-France était ainsi devenue un grand jardin paradoxal. On était ici dans l'espace mental de Baudelaire, le fils d'un peintre de paysages galant, resté toute sa vie prisonnier des rues étroites de Paris, comme s'il y avait autour de lui une frontière infranchissable. C'est-à-dire que même l'écrivain, finalement, est fasciné par l'environnement urbain, urbanistique ou architectural qui l'enserre ou qui le fait respirer.
Paris est très problématique pour ça parce que c'est une ville qui a conquis son site et son site est merveilleux, un peu une sorte de vallée de la Seine élargie avec quelques buts témoins au loin. Le site est vraiment très très beau, mais il suffit de voir des photos de ça depuis l'espace pour comprendre que Paris est terriblement seul, entouré d'une sorte de no man's land de betteraves et de blé de 200 km et qu'il n'y a aucune ville autour de Paris. Alors que toutes les villes européennes, c'est frappant si on regarde l'Allemagne, si on regarde la Belgique, toutes les villes européennes communiquent entre elles. Paris est dans une sorte de somptueuse solitude, ça me fait penser à Moscou. Moscou est aussi une ville de cet ordre-là. C'est assez rare les grandes villes qui sont aussi seules. Donc il y a cet aspect. À un moment, Paris est trop bien dans son site, donc il faut réussir à le faire escalader, il faut réussir à l'éclater.
Et qu'est-ce que vous voulez faire comprendre au lecteur à travers ce roman ?
Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'on sait que les villes, on les a fabriquées, il n'y a aucun doute, et on sait aussi qu'elles sont plus puissantes que nous. Donc on ne peut pas s'empêcher de, malgré tout, de se dire qu'on a fabriqué quelque chose qui ne ressemble pas à un dieu, il ne faut pas exagérer, mais qui ressemble à une religion. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une religion ? C'est un système tout intégré de secours. À un moment, mon personnage une illumination dans le tunnel des Halles en se disant finalement Dieu est là. Dieu, c'est juste des trappes de désenfumage, des flèches. Dieu, c'est un système de signes très très ferme. Et je me suis dit finalement, l'idée du Grand Paris, c'est de me dire quelle est la grande religion des modernes. C'est soi-disant athée. Les modernes, ils ont comme religion la ville. Et c'est le premier, je pense, à l'avoir compris, c'est Baudelaire. Ouais.
Il y a un passage que j'aime beaucoup, Aurélien Bélanger, qui me rappelle aussi des grands textes sur les ruines, sur la décadence, et ce parc, ce projet Mirapolis, donc qui a existé, d'un parc d'attractions qui était d'ailleurs imaginé par une disciple de Roland Barthes, Michel Brodeau, vous avez bien connu. Un parc d'attractions qui, en fait, livrerait une sorte d'interprétation architecturale de tous les grands mythes littéraires français. Et il y avait notamment, donc ça a été fait à côté de Cergy, Pontoise.
C'est ça, oui.
Et il y avait un Rabelais creux.
Un gargantua géant qui servait de restaurant et qui était la plus grande à l'époque, qui était la plus grande statue creuse qu'on ait jamais construite. Et truc un peu, ça a jamais marché, mais la ruine a duré pendant très longtemps et on peut encore visiter les ruines. Il y a plus le Gargantua qui a fini par être détruit.
Mirapolis, voilà.
Je peux pas m'empêcher, je mets des parcs d'attractions vides dans tous mes romans. Je peux pas m'empêcher de me dire, ça a été, je ne pense pas qu'on tende vers ce modèle. Je pense qu'on l'a dépassé, mais il y a eu un moment où l'humanité a tendu très fortement vers ce modèle.
Mais l'image est forte, l'image d'une créature littéraire devenue architecture et devenue vide. Parce que devenu architecture aussi.
En plus, Mirapolis avait une sorte de surmoi littéraire très très fort, parce que les espaces étaient tous thématisés littérairement. Il y avait le coin des fables de La Fontaine, le coin de la guerre des Gaules.
Il y a eu un plan pour ce roman.
C'est compliqué, parce que... Ouais. Enfin, il y a eu un plan, il y a eu 5000 plans sur tous les murs de mon bureau. J'ai dessiné tous mes trajets à vélo, à pied, en courant. Donc j'ai accumulé une documentation énorme, mais à un moment, le jeu, c'est de pas l'utiliser. Et il me semble, c'est un peu compliqué, c'est qu'on est bon que quand on improvise, et en même temps, il faut avoir des problématiques de structure. Donc c'est le charme et la faiblesse du roman.
Il y a un plan dans Face aux Styx, Dimitri Bortnikov, c'est 800 pages de torrent d'images, de visions, on va en parler maintenant, ou ça se fait comme ça jaillit.
Ah ben non. Une meilleure improvisation, elle doit être bien préparée. Ouais. Mais au bout d'un moment, c'est lui qui sait pêcher, il pêche sans savoir.
Donc
c'est...
tout cela était très très bien, ce Face aux Styx, ça a été très très bien préparé.
C'est 8 ans quand même, hein. Ouais. C'est 8 ans.
Oui, mais ça pourrait être 8 ans d'un déluge de...
Oh non, 8 ans de déluge, merci. Oh non, ça va, au bout d'un moment.
Alors, ça s'appelle Face aux Styx, c'est publié chez Rivage, on en parle tout de suite. Vous avez choisi Bach, l'andante du concerto italien. On a choisi une interprétation d'Alexandre Tarot. Pourquoi Bach ?
Pourquoi Bach ? Parce que nous, les Russes, on était nourris par tous les trous qui nous lient au monde par Bach. Ouais. On est très Bach. On voyage dans les Bachs. Non, sans blague, la musique classique a été très présente en Russie.
Mmh. Et même, non, mais lui
Bach, c'est la valeur sûre. Ouais. Donc, Bach, c'est toujours beau pour les oreilles.
Ouais. On écoute.
Et pour le cœur. Snob souvent ce concerto de Bach parce que c'est, pour eux c'est très simple, mais en fait c'est très compliqué. Et ils disent souvent la main gauche c'est couci couça, la main droite ça va encore. Mais en fait ils pensent que ce n'est plus Bach. Bach, il sort de ses berges, il devient presque pour les musiciens Beethoven. Mmh. Mais c'est, tout est lié dans la musique comme dans la littérature, comme l'eau.
Donc c'est l'andante du concerto italien de Bach, interprété par Alexandre Tarot, et donc c'est votre choix, Dimitri Bortnikov. Alors, Face aux Styx, presque 800 pages, il nous décrit le parcours mental et physique de quelqu'un qui vient de Russie, mais qui est à Paris et qui va convoquer plusieurs souvenirs, plusieurs figures, des figures parfois évanescentes, d'autres qui sont très ancrées, comme le grand-père, par exemple, qui a connu trois guerres. Il y a aussi la littérature qui s'invite, Shakespeare et là, Babylone, Trotsky, je ne sais pas la littérature là, mais Trotsky.
Mais c'est un bon écrivain aussi.
Mais c'est un très très bon écrivain. Les Cosaques Zaporog, des chats,
des chiens,
une marquise.
Une marquise, oui.
Voilà. L'architecture aussi est là. Et alors c'est pour moi une sorte de grand torrent comment le décrire justement, ce grand fleuve parisiano-russe, à la fois la Seine, la Volga et puis toute la littérature dedans, un style syncopé, hein, beaucoup des phrases. Le mieux c'est peut-être qu'on vous écoute le lire.
Quel gâchis, merde! Il fallait allumer la place du Trocadéro, mais non, la trouille, l'armée. Et ces béliers préfèrent plutôt braquer en kebab que d'exploser les crédits lyonnais en face. Voilà la révolution, quelle merdouille. Bon sauce pour les racines des pissenlits, quelle honte. Allah et cieux, dans sa colère, il doit incendier chaque kebab. Qu'il se tourne enfin vers les banques, vers les riches, vers les champs, vers les palais, Matignon. C'est là-bas il faut chercher les kebabs à la sauce bien rouge. C'est là-bas qui vit leur vrai fin. Mais c'est fini tout ça. Révolution halal, révolution kebab et tout, printemps arabe, mon cul. Meilleure saison pour prendre le pouvoir, c'est bien octobre. Le temps de fouler les raisins. Pas par hasard, les Russes ont réussi, sans GPS ni rien. Même pas de portable. Et pourtant, barbiche de Lénine et moustache de Staline. D'accord, parfait, merveille, organisé, voilà tout. Et Al-Qaïda, et sœur musulmane. Mais c'est même pas à rire, c'est un kebab ça aussi, juste un peu plus grand. Et ils regardent les ports en face, nous. Oui, nous, l'Occident sans notre boucherie bien propre. Et pourquoi elle nous massacre pas? Enfin, une nuit bien noire, et les queues de cochons seront bien défrisées. Mais non, ils sont mal organisés. Oui, mais pas que ça. Leur faim est mal organisée. C'est vrai. Mais c'est prévu. Ils connaissent pas leur faim. La vraie, c'est ça le truc. Qui vient du fond du siècle, du temps de la Médine?
Merci Dimitri Bortnikov, c'est un extrait de Face aux Styx. Alors, des pages comme ça, je disais, il y en a presque 800, toujours dans cette syntaxe syncopée, on sent une langue âpre, charnelle, beaucoup d'humour aussi, beaucoup de crudité parfois. On a l'impression d'être au bord du gouffre en permanence, mais la vie nous rattrape. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Parce que je me souviens de votre premier, Le syndrome de Fritz, qui était le premier ou le deuxième, je sais plus, parce que je me perd un peu parfois dans la chronologie.
Écrit le premier syndrome de Fritz, mais traduit en deuxième.
Et traduit en deuxième, qui se passait aussi à Paris, rue des Thermopyles, dans un squat, où un homme écrivait, convoquait aussi sa mémoire, comme il le fait dans Face aux Styx, sur les draps. Là, Face aux Styx se présente comment par rapport au syndrome de Fritz?
Syndrome de Fritz, c'est juste une saucisse à côté d'un taureau vivant. Face au Styx, c'est un torrent qui, c'est le Styx qui sort du lit. C'est un Styx qui est bouché. Donc, il faut appeler un plombier. Donc, moi, je me sens un peu comme plombier qui doit déboucher le Styx. Mais pour déboucher le bidet, il faut plonger dedans. Et donc, véritablement, j'ai pas envie d'être face au Styx. Je veux pas mourir. Et je pense que, en me promenant autour de Vésuve, mais très doucement, on peut sentir par les pieds la présence de la mystère qui est la vie humaine.
Dans la nécessité de ce texte, parce que vous disiez, voilà, faut plonger dans le Styx pour aller trouver la bonde et l'arracher. Il y a aussi une volonté aussi de mettre en place certains souvenirs vécus, ou est-ce qu'on est totalement dans des visions poétiques? Parce que j'ai eu l'impression aussi, on en parlait du torrent, d'être plutôt dans un jaillissement de vision d'une force poétique terrible.
Parce que c'est trop grand pour moi. Vous savez, j'ai faim pour manger 25 kebabs.
Qu'est-ce qui est trop grand?
La langue que j'ai dans ma bouche, en fait, quand même pour une si grande gueule, avoir deux langues dans la bouche, c'est quand même trop. Parce que le russe et le français. Donc, il fallait choisir. Et je choisis le français. Parce que c'est une langue qui vous permet, pendant 5 heures, de parler d'amour sans jamais évoquer la question de mariage, quand même. En russe, j'ai pas pu le faire. Parce que ça y est, j'ai débouché le Styx russe. Maintenant, comme un bon plombier polonais, je vais déboucher le Styx français, en français.
Mais pourquoi vous avez... C'est le deuxième livre, écrit en français. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'abandonner le russe et d'écrire en français? Et là, choisir.
En fait, c'est la mort de ma mère, parce qu'avec elle, ma langue maternelle est morte et enterrée, très loin d'ici, dans la terre gelée en Russie. il ne me restait que apprendre le français. Et j'ai appris le français en travaillant comme cuisinier particulier chez une comtesse russe. Il y en a à Paris encore. Pas beaucoup, pas plus que des chauffeurs de taxi, mais il y en a. Et c'est elle qui m'a appris le français.
Et c'est elle qu'on retrouve aussi dans les pages de Cephas Ostix, de Marquise.
Il y a énormément de choses transposées. C'est pas une biographie.
Non, ce que je veux comprendre, c'est que, évidemment, dans la forme, je pense que là, les auditeurs ont compris. Je veux dire que, voilà, il y a une langue qui est travaillée, qui est en éruption permanente, où la syntaxe est fracassée, et qui multiplie tous les niveaux de langage. Mais dans le projet romanesque, votre projet romanesque, on a l'impression qu'il s'agit aussi de faire revenir ses morts.
C'est ça aussi. Il s'agit de rassembler tout ce qui est vivant en moi. Et en fait, tout ce qui est vivant en moi, c'est mes morts. C'est mon enfant que j'étais, qui est mort, déjà, parce que je suis plus un enfant. Mais cet enfant, en fait, c'est lui qui écrit. En fait, la question, c'est presque n'est pas la question de la langue, pour moi. Ni même presque du style. C'est la question de la vision. Parce que tout ce qui est muet en nous, il peut voir. Tout ce qui ne parle pas à nous, c'est que ça qui est intéressant. C'est que ça qui est vivant.
Vous avez lu un passage très très violent sur Paris. Vous dites aussi que Paris, alors ça c'était, Paris est un homme fatigué. Voilà, immense fossé des Lucioles, ça c'était dans Repas de mort. Là, Paris est extrêmement présent. Quel rôle joue Paris justement dans cette résurrection de vos propres morts?
Paris, pour moi, c'est le Babylone. Et moi, je suis comme une petite pute de Babylone. Je me balade à la recherche de la vérité.
Telle une pute, je pleure ma Babylone, écrivez-vous. Donc c'est quoi cette vérité? Elle est...
Cette vérité, c'est la vérité de l'existence de l'amour humaine, qui est au-delà de faire des races papouilles ou de frotti-frotta, c'est autre chose. Et donc c'est toujours la frontière. Et en fait, parfois, en écrivant ce livre, j'avais l'impression d'avoir un grand couteau bien aiguisé dans ma poche. Il fallait pas que ça perce. Quand vous percez le réel, le sac du réel est percé, vous vous sentez plus rien, vous partez dans l'espace comme Laïka. Il faut toujours être à côté, sur la crête, sans percer.
Mais c'est une sorte de danse macabre, de farandole parisienne et russe hein, aussi, on l'a dit, que vous voulez donner avec Face aux Styx.
C'est la danse d'un Shakespeare qui a choisi de jouer le rôle de Falstaff. C'est le bouffon sans roi. Et le bouffon sans roi, c'est une vision très triste. Mais le roi sans bouffon, c'est encore plus triste.
C'est vrai. Vous savez ce qu'on dit de Rome, la ville de Rome? Rome serait la ville où il y a le plus de morts sous les pieds des vivants. Et que ces morts, finalement, donnent une énergie formidable. Et c'est pour ça qu'on se sent aussi peut-être si bien et qu'on sent la force du passé et peut-être aussi du présent à Rome. Est-ce que Paris, finalement, pourrait jouer la compétition avec Rome? Est-ce que ça vous semble une ville dont les morts peuvent parler aux écrivains vivants?
Rome est la capitale du monde passé, Paris reste éternellement la capitale de la modernité. Donc elle a un rapport un peu ambigu avec ses propres morts. Elle est aussi du futur.
Mais
elle a
les plus belles catacombes du monde, les plus grandes.
Paris.
Énorme, oui, bien sûr. Plus qu'aucune autre ville. Et quelle mort. Ça va de François Villon à la Montespan. Il y a tout le monde mêlé. Les os séparés les uns des autres, les cadavres disloqués, tout ça. C'est-à-dire la moitié de la ville, toute la rive gauche.
Oh là là, si on les ressuscite tous, il faut avoir beaucoup de vêtements. Hein.
Exactement. Mais ça nous donnera des beaux livres, comme les vôtres. Merci à tous les trois.
Merci.
Dimitri Bortnikov, Face aux Styx, c'est chez Rivage. Michel Brodeau, Place des Vosges, c'est au Seuil. Le Grand Paris d'Aurélien Bélanger est chez Gallimard. À très bientôt.
Merci.
Merci.
Merci. C'est le moment de retrouver notre libraire de la semaine. Nous sommes cette semaine avec Émilie Potus de la librairie La Manœuvre, 58 rue de la Roquette. C'est à Paris, dans le 11e arrondissement. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Alors ce rendez-vous, vous le savez, vous est proposé en partenariat avec le site livrehebdo.fr. Alors vous avez choisi, Émilie, de nous parler du nouveau livre d'Antoine Choplin, « Quelques jours dans la vie de Thomas Coussard ». C'est comme ça qu'on prononcera aujourd'hui.
On va dire Coussard.
Voilà, c'est publié à La Fosse aux Ours.
Oui, alors Antoine Choplin, c'est un auteur que je suis depuis très longtemps. Et j'invite tout le monde vraiment à mettre le nez dans ses livres parce que c'est un auteur qui a une sensibilité incroyable. La vie de Thomas Koussard, c'est un jeune cheminot qui travaille dans la ville de Trutnov, donc qui est encore en Tchécoslovaquie, dans le nord à la frontière polonaise. Et il est garde-barrière, donc il regarde passer les trains toute la journée. C'est un homme qui aime la forêt, qui aime les arbres, qui aime la photographie et qui n'a qu'un seul rêve dans sa vie, c'est de conduire la Drésine qui sommeille dans un hangar. Et il se dit qu'un jour, peut-être, il montera dans un train et qu'il le conduira lui-même. Et un jour va arriver une troupe de théâtre et un homme va passer du temps à nettoyer les bancs parce qu'il pleut. Et cet homme-là va le toucher tout de suite en disant qu'il est très ordinaire. Sauf que cet homme, c'est Václav Havel. Et va naître entre eux une vraie relation amicale. Ils vont commencer à jouer aux échecs, ils vont parler, ils vont partager au départ des moments très simples. Et puis cette amitié va grandir et Thomas va se rendre compte que Václav Havel n'est pas qu'un simple artiste. C'est aussi un politique, on va dire, un homme engagé. Et il va le suivre assez loin finalement, jusqu'à la présidence. Et c'est une... Voilà, une petite histoire comme ça, tout ordinaire, qui raconte la vie finalement.
Ordinaire.
Ah oui, parce que les gens sont ordinaires dans les livres d'Antoine Chopin. Et en fait, c'est ça qui est très beau, parce que ces gens ordinaires deviennent des héros sur des petites choses très belles de la vie. Et on sent petit à petit comment les choses se montent finalement, cette vraie révolution de velours qu'a eu la Tchécoslovaquie. Mmh. Cette révolution qui s'est faite tout en douceur.
Et qu'est-ce qui vous a, vous, touché dans ce livre? Vous parlez de quelque chose de tout simple. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Oui, parce que déjà, les phrases d'Antoine Chopin sont toutes simples. Il a un rythme de phrase qui est très beau. Il n'y a pas d'envie d'emberlificoter l'histoire, justement. Il reste sur des choses comme ça, très poétiques, très fluides. Et puis, il a cet art de mêler à la fois la nature, une certaine observation de la vie dans ses petits détails, qui est touchante. Parce qu'en fait, on peut tous se mettre dans la peau de Thomas Koussard à ce moment-là.
C'est-à-dire de quelqu'un qui suit... Quelqu'un d'engagé, c'est ça, d'être un peu le témoin d'un destin en train de s'écrire.
Oui, qui pourrait en fait très facilement se retrouver dans cette situation, parce que Thomas le cherche pas du tout, il est absolument pas engagé, il subit à peine en fait le régime de l'époque. On sent que c'est pas quelqu'un de révolté non plus, c'est vraiment quelqu'un qui a voilà des rêves très simples, comme je disais, il veut juste prendre le train, et finalement le train qu'il va prendre, c'est le train de l'histoire.
Eh bien, ça donne très envie, en tout cas, Émilie Potus, de lire. Donc c'est Antoine Chopin qui a fait le héron de Guernica.
Oui, et en fait, il a été connu pour Radeau, un de ses premiers romans. Et il y a un livre magnifique qui s'appelle La Nuit tombée, qui est un livre sur Tchernobyl. J'ai jamais rien lu d'aussi beau sur Tchernobyl que La Nuit tombée.
Il faut lire tout Antoine Chopin.
Exactement.
En fait, voilà. Celui-ci, c'est Quelques jours dans la vie de Thomas Koussard. C'est publié à La Fosse aux Ours. Merci, Émilie Potus.
Merci à vous.
Alors vous, les auditeurs, n'hésitez pas à pousser la porte de la librairie La Manœuvre. Donc c'est 58 rue de la Roquette, dans le 11e arrondissement de Paris. Merci beaucoup. Le temps, c'était Le Temps des Écrivains, avec Avril Ventura, Anne-Laure Chanel, Valérie Lavalard à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr. Cette émission sur Paris avec Michel Brodeau, Aurélien Bélanger et Dimitri Bortnikov. Mmh.